1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc cet après-midi, nous allons parler de ton ancienne famille, le monde, que tu ne dois plus aimer. Bien que Dieu a tant aimé le monde, et il y a une façon où nous aimons le monde comme Dieu, nous aimons les pécheurs parce que nous voulons qu'ils se repentent et qu'ils aient la vie éternelle. Mais ici, ce n'est pas du monde sous cet angle-là dont l'apôtre Jean nous parle, mais du monde comme de la société humaine rebelle à Dieu qui vit sous l'emprise du malin et qui exerce une séduction sur nous par des convoitises, qui est un royaume, qui est le royaume du diable et qui est opposé à Dieu. Et il ne faut pas aimer le monde dans ce sens-là, être ami du monde, vouloir l'amitié du monde et s'attacher à ce monde qui va passer. Alors, j'ai trois points sur lesquels je voudrais vous exhorter cet après-midi. Le premier, c'est que tu es dans le monde. Tu dois prendre conscience que tu vis dans le monde et qu'est-ce que le monde? Le deuxième, c'est que le monde est en toi, ou le monde a un attrait sur toi, sur ton cœur, et c'est ce que tu dois combattre. Mais que Christ a vaincu le monde, troisième point, et que tu as la victoire sur le monde par Christ. Alors, le mot « monde », comme je l'ai dit, c'est le mot « cosmos », et parfois il se réfère à la création de Dieu. Parfois, il se réfère à l'humanité, Dieu qui a tant aimé le monde, dans Jean 3,16. Mais ici, il y a un sens négatif. « Cosmos » est employé comme le monde rebelle à Dieu, qui ne veut pas de sa loi ou de son évangile, qui rejette sa parole. Dieu a créé le cosmos, la création, et ses habitants, le monde, ceux qui habitent la terre, soumis à son gouvernement. Et le diable séduit l'homme au commencement, et ça a donné un cosmos qui est rebelle à Dieu. L'humanité a été entraînée contre son Créateur. Et Adam, par sa chute, a livré le monde qui avait été placé sous ses pieds. Nous voyons dans le psaume 8 que Dieu a tout placé sous les pieds de l'homme, bien l'homme l'a placé sous les pieds du diable. Et c'est pourquoi le diable est appelé le prince de ce monde. Et il exerce une influence séductrice sur les hommes qui sont sous son pouvoir. Vers la fin de son épître, l'apôtre Jean nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, il faut échapper à sa puissance en sortant du monde et nous restons dans le monde une fois que nous entrons dans le royaume de Dieu jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher et nous devons nous préserver de ce monde. Mais donc le monde, sous la gouvernance du diable, l'ennemi de Dieu et notre ennemi, s'attaque à l'Église. Parfois il la persécute de façon violente, parfois il cherche à l'infiltrer, à la séduire, à l'amener à se compromettre, à l'amener à se rendre ami du monde, et ce faisant, il devient ennemi de Dieu. Alors, il faut prendre garde pour ne pas se laisser aveugler par les séductions du monde, qui en aveuglent plusieurs. Nous ne devons pas faire comme Démas, qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent, parce qu'il préférait la vie confortable, quelqu'un qui poursuit les plaisirs, qui poursuit son intérêt dans le monde plutôt que de la vie d'un apôtre qui sert Christ et qui renonce au monde. Donc, l'amour du monde est une puissance qui se présente souvent sous la forme de la crainte des hommes, le désir d'être accepté, d'être approuvé, de faire partie, d'avoir l'approbation des hommes. Et cette approbation se manifeste non pas d'une façon uniforme d'une époque à l'autre. J'ai beaucoup aimé cette partie dans « Tactique du diable » de C.S. Lewis. Je vous en cite un extrait où il nous montre que le monde n'est pas uniforme. Ce que le monde est ici en Occident est différent de ce que le monde est en Orient. Ça demeure l'esprit du malin qui influence une culture comme l'autre, qui est ennemi de Dieu, mais de façon différente. Et ce que le monde est à une époque est différent de ce qu'il était à une autre époque. Et voici comment C.S. Lewis décrit cela. Il dit « Les modes en matière d'opinion servent à distraire les hommes des dangers réels qu'ils courent. » Les dangers réels que les hommes courent, c'est le danger du jugement de Dieu qui va les envoyer dans les temps de feu, à la perdition, parce qu'ils servent des idoles. Et l'une des tactiques du diable, c'est d'utiliser des modes dans le monde pour séduire les hommes en leur faisant ignorer les véritables dangers. Ils s'inquiètent de ne pas être à la mode, alors qu'il y a un danger beaucoup plus grand que de ne pas faire partie du monde, qui est d'être exclu du royaume de Dieu. Je reprends la citation. « Nous orientons, le « nous », c'est les démons, ici, C.S. Lewis prend la voix d'un démon, Screwtape, un démon senior qui instruit son neveu Wormwood à comment être un bon séducteur. Alors, nous orientons les cris d'indignation de chaque génération contre les vices qui la menacent le moins. Et nous la poussons à donner son approbation à la vertu la plus proche du vice que nous aimerions voir se répandre. Notre tactique et de les faire courir tous avec des extincteurs en cas d'inondation, et de les entasser tous du côté du bateau qui est déjà en train de sombrer. Nous nous arrangeons pour que ce soit à la mode chez eux d'exposer les dangers de l'enthousiasme au moment même où ils sont tous en train de devenir tièdes. Un siècle plus tard, quand nous serons en voie de les abeuvrer de romantisme byronien, de les enivrer d'émotivité, nous soulèverons un tollé général contre les périls d'un excès d'intellectualisme. À une époque de cruauté, nous cherchons à mettre en garde contre le sentimentalisme. En période de mollesse et de laisser faire et de laisser aller, à nous attaquer aux convenances. En temps de laxisme, à stigmatiser le puritanisme. Et chaque fois que les hommes ont tendance à devenir soit des esclaves, soit des tyrans, nous les effrayons en agitant le spectre du libéralisme. Les hommes se posent des questions toutes simples comme « Est-ce juste? Est-ce sage? Est-ce possible? » Mais s'ils continuent à se demander « Est-ce en accord avec la tendance générale de notre époque? Est-ce conforme aux idées progressistes? » ou aux opinions réactionnaires? Est-ce dans le sens de l'histoire? Ils laisseront de côté les questions pertinentes. Qui sont les questions du style « Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est sage? Est-ce que cela est vrai? » Mais le diable ne veut pas que les hommes se posent ces questions. Il veut que les hommes se demandent « Est-ce que c'est dans le sens de l'histoire? Est-ce qu'on va être retenu du bon côté de l'histoire? » Hein, c'est une des répliques que le président Obama disait souvent pour s'opposer à ses détracteurs idéologiques, comme quoi ils n'étaient pas du bon côté de l'histoire. Ils allaient être retenus comme ceux qui ont fait les mauvais choix, les mauvais votes, qui n'étaient pas du côté progressiste et de la bien-pensance. Mais le monde change constamment d'idées. Et nous sommes au milieu de ce monde, et nous devons prendre garde. Notre souci ne doit pas être qu'est-ce qui est en vogue, qu'est-ce qui est la bien-pensance, qu'est-ce qui est approuvé par l'élite d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est selon Dieu. Malgré toutes les diversités et les formes contradictoires par lesquelles le monde et la pensée du monde sous la puissance du malin se manifestent, il y a une constante dans l'esprit du monde et dans sa manifestation c'est son incompatibilité avec l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Tu ne peux pas vouloir être ami du monde et ami de Dieu. Parce qu'il y a un problème d'allégeance. Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et Jean nous dit également que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors que ce soit ici au Canada ou ailleurs en Chine, la façon que le monde se manifeste est incompatible avec l'amour de Dieu. Ce sont deux royaumes rivaux qui réclament un amour exclusif. Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, sans compromis. Et que tu ne tiennes pas compte du monde et de ce qui plaît au monde, parce que si tu cherches à te conformer au siècle présent, tu vas déplaire à ton Père qui est dans les cieux. Et ton Père considère ta mondanité comme une sorte d'infidélité conjugale. Jacques nous dit au chapitre 4 de son épître, verset 4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui cherche à apaiser les idoles de ce monde, les penseurs du siècle présent, les moqueurs, les railleurs qui tournent en dérision la vérité et l'évangile que nous professons, qui édulcore le message, les prédicateurs dans les églises qui cherchent à attirer le monde par les moyens qui plaisent au monde, sont adultères, font des compromis face à Dieu. Une chose qui peut nous aider à ne pas chercher l'amour du monde, c'est de se rappeler que de toute façon, le monde ne nous aime pas. Jésus dit, « Si vous étiez du monde, Jean 15, 19, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ce n'est pas personnel à toi. Mais si tu appartiens à Christ, le monde ne t'aime plus. Parce que tu n'adores plus ses idoles, tu ne sers plus ses dieux. Tu appartiens à un autre royaume. Et le monde a rejeté Dieu et son oint. C'est ce que le psaume 2 nous fait entendre, ce cri de guerre des nations qui refusent de se soumettre à l'Éternel et à son oint. Et tous ceux qui appartiennent à son oint, qui ont embrassé le Fils pour être sauvés de sa colère, sont haïs du monde, comme lui a été haï du monde et rejeté par le monde et crucifié par le monde. Donc, puisque le monde te hait, et puisque ton père que tu aimes n'a pas trop d'égard pour la bien-pensance, n'a pas trop de sympathie pour les prophètes du siècle présent, tu ne devrais pas toi non plus te laisser intimider par la pensée des hommes. Tu ne devrais pas te sentir mal de ne plus faire partie du monde, d'être un paria, un exclu. Et tu devrais plutôt chercher à apprendre à penser les pensées de Dieu après lui. Et voici à quoi ressemble le renouvellement de la pensée des enfants de Dieu. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Dans votre mentalité, dans vos valeurs, dans votre façon de vivre, dans vos priorités, dans votre façon de gérer votre argent, dans votre façon de voter, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, tu vis dans un monde qui est hostile. Tu as été mis au banc de ce monde. Tu es sorti de ce monde. Tu n'en fais plus partie, même si tu es encore dans le monde. Mais la chose peut-être plus importante encore que tu dois savoir, c'est que le monde est en toi. Non seulement tu es dans le monde, mais le monde a encore quelque chose à lui qui est en toi, dans ton cœur. Et donc, pour bien saisir ton combat à mener dans le monde, tu dois comprendre là où il commence. Tu n'es pas en croisade d'abord pour changer le monde extérieur, mais pour veiller sur ton propre cœur. Tu ne viens pas de Mars, tu viens du présent siècle mauvais. Et Paul dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'est dans notre nature. Et c'est encore là. La conversion a amené une rupture entre nous et le monde. Tu as reçu une intelligence renouvelée, de nouvelles affections. Mais la conversion n'a pas éradiqué tout l'attrait du monde sur toi. Et la conversion n'est que le début d'un combat qui va continuer toute ta vie pour résister au monde, pour ne pas te laisser séduire par le monde. Et ton combat consiste donc à préserver ton cœur des influences de ce monde, de ne pas te conformer au siècle présent, de ne pas te laisser séduire par les idéologies qui y sont véhiculées, qui sont contraires à la loi de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Donc, ton combat dans le monde n'est pas de réformer la société, de changer la culture. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune cause qui mérite que tu t'y engages. Il y a des causes sociales qui sont nobles, et parfois il est noble de s'y engager, de lutter pour réformer certains aspects dans la société. Mais ton combat est premièrement celui de la sanctification intérieure. Parce que le monde sera toujours cohéremment mondain, peu importe les changements qu'on y apporte extérieurement par les réformes sociales qui peuvent y être opérées. Et nous avons lu ce verset que je vais vous relire dans 1 Jean 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil et la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et c'est de cela dont nous devons nous garder. Et c'est ce qui est encore du monde dans notre cœur. Cette convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie auquel nous devons prendre garde. Le monde exerce un attrait jusque dans notre chair. Il excite les passions du péché en nous. Le désir du péché dans notre cœur. Le monde sait l'éveiller pour satisfaire des plaisirs illicites dans notre corps. La convoitise des yeux qui se manifeste souvent par les possessions matérielles qui illusionnent les hommes. La soif de posséder. Et parfois, ce sont des biens légitimes. Mais l'Écriture nous met en garde. La vraie richesse n'est pas de ce monde. Cherchez pas votre vie dans ce monde. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges qui amènent les hommes vers la perdition et la ruine. Attention à la convoitise des yeux. Même quand c'est pour des choses qui sont légitimes et qui ont été acquises de façon honnête. La convoitise des yeux qui mène souvent à l'orgueil de la vie, qui se traduit par parfois un sentiment de suffisance, de supériorité, lorsqu'on réussit à concrétiser nos aspirations, qu'on atteint l'érudition, qu'on atteint le standard ou la richesse et qu'on se trouve au-dessus des autres. Mais parfois, c'est exactement le sentiment inverse qui manifeste l'orgueil de la vie. L'insécurité, le sentiment d'infériorité, de jalousie face à l'apparence des autres, à leur capacité, à leur succès, qu'ils affichent et qu'ils manipulent avec leur image qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. Et nous envions l'orgueil de la vie, où nous cherchons par la crainte des hommes un statut. Jean nous met en garde de cela. Parce que Dieu sait que le monde a encore un attrait sur nous. que le péché peut encore être excité et les convoitises nous amener même à désirer des choses légitimes mais qui nous font tomber dans un orgueil, dans une vanité. Alors bien sûr, il est impossible de se soustraire complètement à l'influence du monde qui est un peu omniprésente. Où que vous alliez, le monde vous envoie ses messages, vous bombarde par ses publicités, vous incite à embarquer dans un moule, à vous conformer aux idées du siècle présent, aux indulgences de la chair. Il véhicule ses messages dans les universités, dans les médias, dans l'art. Parfois, il s'insère, il s'infiltre jusque dans le pupitre où c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Parfois, de façon grossière, il y a des faux prophètes, mais parfois, des hommes fidèles cèdent sur tel ou tel aspect de leur discours à la pensée du monde. Donc, il est impossible de ne jamais être exposé. Et Dieu ne nous dit pas d'aller vivre sur une île déserte pour éviter d'être séduit par le monde. Tu ne peux pas vivre en ermite, mais tu dois devenir vigilant. Prendre garde à ce que tu entends. Et réaliser que si tu t'exposes au monde et à ses divertissements sans prendre garde, et si tu y vas abondamment, si tu passes des heures importantes à écouter des séries sur Netflix ou peu importe sur quel réseau que ce soit, tu risques de désensibiliser ta conscience, d'engourdir ta piété et de refroidir ton amour pour Dieu. Nous avons lu dans le premier verset, au verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Plus tu aimes le monde, moins tu vas aimer Dieu. Plus tu vas trouver difficile de t'attacher à Dieu et de pratiquer la piété. Plus tu vas trouver la lecture des Écritures ennuyante, les cultes longs et pénibles, plus ta vie chrétienne va devenir un devoir formel qui va t'amener dans un formalisme religieux superficiel. Attention au monde qui refroidit ton amour pour Dieu. Ton combat donc est de te réfréner. De réfréner l'effet du monde sur toi et de t'exposer abondamment à l'amour de Dieu. À découvrir sa grandeur, sa profondeur, sa largeur. À t'en nourrir. Et ça va te laisser froid face à l'amour du monde. Indifférent face à ses séductions. Le péché n'aura plus autant d'emprise sur toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour terminer. C'est que tu n'as pas besoin de vaincre le monde. Quelqu'un l'a déjà fait pour toi. Oui, le monde peut continuer à te nuire, à te ralentir, à te refroidir, mais il ne pourra pas prévaloir ultimement contre toi. Le monde ne pourra pas t'arracher de la main de ton Père. Le monde ne pourra pas tuer ta foi ni ton amour pour Dieu. Et cette assurance ne doit pas t'amener à être négligent en disant « je suis invincible » parce que le monde peut te faire beaucoup de mal. Mais il ne peut pas t'arracher de la main de Dieu. Jésus nous fait cette promesse dans Jean 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et en lui, toi aussi, tu as vaincu le monde. Jean nous dit un peu plus loin dans son épître, au chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. » Les faux prophètes, les antichrists, les séducteurs du siècle présent, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, ce n'est pas en vertu de notre propre foi, de notre propre force ou de notre propre piété, mais en vertu de celui qui est en nous, que nous avons vaincu le monde et ses séducteurs. Au chapitre suivant, Jean nous dit au verset 4 et 5, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Les premiers chrétiens ne semblaient pas être les conquérants du monde. Une nation d'esclaves, de parias, en majorité avec des femmes, des pauvres, auxquels il est dit qu'ils ont triomphé du monde. Mais le triomphe ne se manifeste pas par une victoire politique, par un avantage d'influence sur la culture. Mais notre victoire contre le monde, c'est notre foi, par laquelle nous sommes délivrés des mensonges du monde et de ses faux dieux, de ses idoles et de toutes ces idéologies qui trompent et qui séduisent les hommes et qui les amènent à la ruine. Et c'est comme ça que le diable les garde captifs, qui les empêche de voir la gloire véritable et l'évangile de Christ en les séduisant par l'amour du siècle présent. Mais qui a triomphé du monde sinon celui qui voit clair, qui voit que Jésus est le Fils de Dieu et qui ne fléchit plus les genoux devant les idoles de ce siècle, mais qui adore le vrai Dieu et qui confesse le vrai Seigneur. Et Paul déclare qu'on nous livre dans les arènes, dans les stades, qu'on soit dévoré par des fauves, qu'on soit brûlé par le feu, qu'on soit noyé par l'eau. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas les perdants. Nous sommes les conquérants. Parce que le monde ne peut point éteindre notre foi, qui est la manifestation de la grâce de Dieu en nous. Une foi inextinguible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et triomphe même de la séduction du monde. Donc tu n'es plus asservi aux mensonges du monde. Tu connais le véritable et rien ne peut te séparer de lui. Jésus déclare qu'il a vaincu le monde. Comment l'a-t-il vaincu? Non pas comme Alexandre le Grand a cherché à vaincre le monde et à remporter le monde entier par l'épée. Ce matin, j'exposais le psaume 33 et il est dit dans ce psaume que le cheval est inutile pour secourir le roi, qu'une grande armée ne peut rien apporter. Dieu n'a pas besoin de ses moyens. Et ce n'est pas par le cheval, ce n'est pas par l'épée que Dieu a vaincu le monde, c'est par la croix. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Le prince de ce monde, le diable, a été dépouillé, il a été livré publiquement en spectacle par la croix. Et donc, ce qui avait toute l'apparence d'une défaite et de la faiblesse, Dieu a manifesté le triomphe de son Messie. Et cela est vrai pour le monde invisible des esprits méchants dans les lieux célestes qui ont été vaincus par le Christ. Mais c'est vrai aussi du monde visible des hommes. Et c'est là où la croix doit avoir une signification pour nous. Paul dit dans Galates, chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Le point de rupture entre nous et le monde, c'est la croix de Christ. Et la croix de Christ doit être plus qu'un simple concept théologique, elle doit avoir une manifestation et une puissance concrète dans notre vie pour montrer au monde qu'il est crucifié pour nous comme nous le sommes pour lui. La croix est une puissance dynamique et une déclaration de foi. Le verset 17 de notre texte principal, où parce que nous croyons dans un Messie crucifié, qui est vainqueur sur le monde, nous croyons que le monde passe et que sa convoitise aussi passe, que son attrait est vain, que ses richesses n'enrichissent point. Et nous croyons que dans la croix du Christ, il y a infiniment plus de richesses que dans tous les trésors de l'Égypte. Car comme Moïse, nous avons un autre regard que celui des hommes aveugles. Nous voyons dans l'opprobre du Christ plus de richesses que dans les trésors de Pharaon. Parce que ce sont de vains trésors qui vont périr. Mais dans la croix de Christ, il y a la vie éternelle. Et il y a une gloire qui ne pâlira jamais. La gloire que Dieu donnait à son Fils en le faisant Seigneur sur toute la création, en replaçant sous les pieds de l'homme, le dernier Adam, ce qu'il avait placé sous les pieds du premier qui a été perdu. Et donc nous méprisons le monde parce que nous estimons la croix. Et sa séduction ne prend plus pour nous. Nous devons comprendre, frères et sœurs, la richesse qu'il y a dans la croix de notre Sauveur, dans la croix de Christ, pour désamorcer les fausses richesses et les séductions de ce monde. Je termine avec cette prière de Christ pour toi et moi avant d'aller mener cette victoire définitive à la croix. Jean 17, 13 à 18, il a dit « Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ton Sauveur aurait pu t'amener directement dans son royaume céleste. Ton Père Céleste aurait pu manifester de façon visible immédiatement le royaume de Christ, de façon visible. Mais il a décidé de laisser le monde en place et de nous laisser dans le monde. Mais nous ne sommes plus de ce monde qui passe et qui va périr. Et nous avons une mission dans ce monde. Comme le Père a envoyé son Fils dans le monde pour annoncer la vérité, il nous envoie dans le monde en nous disant de nous garder du monde, de nous garder du malin. Et nous sommes préservés par la vérité de la parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous met à part pour notre mission, qui nous permet d'être dans le monde sans être du monde, d'être dans le monde sans être sous la domination du malin et de faire notre mission. Et une fois qu'elle sera complétée, le monde va passer. Lorsque Christ viendra et qu'il établira son royaume qui n'est point de ce monde, mais qui va conquérir ce monde et qui est déjà en train de le faire. Alors peut-être que parfois dans ta mission, tu vas avoir l'impression de passer à côté des plaisirs de la vie, de te laisser pour compte. Tu vas vivre cette tentation d'Asaph du psaume 73. « C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je regarde les méchants qui mènent une vie facile, qui sont chargés d'un bon point, qui n'ont aucun souci. » Mais tu vas te rappeler lorsque tu vas venir dans la maison de Dieu, qu'ils sont sur une pente glissante, qu'ils s'en vont à la ruine, et que ce n'est pas en vain que tu marches dans la sanctification et dans l'obéissance et que tu renonces à ce monde et que tu attends le royaume à venir. Alors fais comme Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Refuse les titres que le monde t'offre qui compromettent ton intégrité et ta fidélité. Refuse les plaisirs qu'il t'offre qui sont incompatibles avec ton statut d'enfant de Dieu. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est là où nous devons fixer nos yeux, sur Christ, sur sa gloire, sur ses promesses, sur notre héritage céleste, pour renoncer à la jouissance éphémère par l'amour pour le siècle présent. Et cette foi va vous donner la juste perspective qui va vous permettre de traverser tout le cours de cette vie en étant fidèle à votre Père céleste. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui nous garde, qui nous sanctifie. Tu nous as laissés dans le monde et on te prie que ce qui reste du monde dans nos cœurs, Seigneur, soit éradiqué par l'œuvre de ton esprit en nous, l'amour de la vérité, l'amour de ta parole et l'attachement à tes promesses et au royaume à venir, Seigneur. Garde-nous, préserve-nous, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Merci pour Christ qui a vaincu le monde, Seigneur, qui nous a délivré des mensonges, des idoles et de la mort qui est assurée à tous ceux, Seigneur, qui sont captifs du monde. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes plus de ce monde, nous en avons été rachetés. Et gloire à toi, gloire à Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.